Radio Okapi. Parité et famille. Bonjour à tous. Après les élections présidentielles, législatives et provinciales, comment se présente la participation politique de la femme congolaise? Quelles sont les causes qui ralentissent encore la représentativité effective des femmes aux institutions du pays? Quelles sont les stratégies mises en place pour améliorer la participation politique de la femme? C'est aussi ce que nous allons découvrir dans Parité et Famille avec le mouvement Rien sans les femmes. Également dans Parité et Famille de ce jour, la réaction des femmes élues et de celles qui ne l'ont pas été. Encore une fois, bienvenue dans votre magazine Parité et Famille qui touche aux questions liées au genre et à la famille. Rendons-nous à Lubumbashi où le mouvement Rien sans la femme a formé plusieurs femmes ayant des ambitions politiques. Jeff Mbia, qui en est le facilitateur, nous énumère les différentes étapes franchies pour accompagner les candidates. Il est au micro de Denise Maéo.
La première étape était d'abord la perception de la population congolaise sur la participation politique de la femme. Ça devait nous permettre de savoir si la population congolaise est prête à soutenir l'électorat féminin. Le travail a été fait, ça a permis aux candidates de connaître ce que la population pense d'elle.
Et qu'est-ce que la population pense? Parce qu'avant qu'on aille plus loin?
Bon, l'opinion était d'une manière variée et ça permettait réellement à la femme de voir comment améliorer d'abord son image, sa communication et ce qu'il peut faire au regard de cette perception. Ça a été fait au niveau de l'étendue nationale. Mais l'approche a été présentée à Kinshasa, Mbujimayi, Goma, Kisangani, ainsi que Léo Katanga, Lubumbashi.
Voilà.
La deuxième fois, c'était maintenant, cette fois-là, la formation sur l'amélioration de la participation politique de la femme congolaise à travers les projets et participation politique inclusive. En dehors de ça, nous avons maintenant associé des femmes. Là, c'était d'abord 60 femmes candidates parce qu'India y appuyait. Il y a aussi une femme qui avait aussi l'autre approche. Un dossier avec CAFCO, on devait se répartir pour capitaliser, permettre à toutes les candidates d'améliorer les approches sur le terrain. Et après, nous sommes passés maintenant par la formation. Comment battre une campagne d'une manière professionnelle? Comment budgétiser une campagne? La sécurité d'abord des candidates, mais aussi la sécurisation du processus. Et la troisième ou quatrième phase, c'était cette fois-là, en dehors de l'école électorale et de la justice électorale, on devait passer maintenant sur le système de surveillance électorale. D'ailleurs, c'est la phase actuelle, parce qu'il faut partir en contestation. C'est vrai qu'au niveau des présidentielles, la Cour constitutionnelle a déjà rendu son arrêt, mais au niveau des locales, nous devons maintenant s'attendre à des réclamations. Ça sera au niveau de la Cour d'appel, la Chambre administrative et autres. C'est qu'il fallait permettre à chaque candidate au regroupement ou parti politique de mettre en place les mécanismes de suivi et surveillance électorale pour qu'au moment opportun, qu'on ne puisse pas tomber dans des réclamations fantaisistes. Voilà un peu parce que le souci, c'était qu'on arrive à un processus électoral apaisé, mais s'il y a contestation, soit mené d'une manière professionnelle.
Voilà. Et alors, sur toutes ces femmes que vous aviez pu former, vous aviez ciblé 25 pour un accompagnement, je dirais, spécifique, oui, en termes notamment de communication.
Oui, c'était la communication digitale, mais aussi la communication politique et marketing politique. Et c'était 25 qui étaient triés, mais au niveau local, nous sommes arrivés même à quarantaine, parce qu'il y a ceux-là qui suivaient, par là plutôt, nous les avons associés. On voulait réellement que la femme, en dehors du fait qu'elle soit élue ou pas, mais puisse connaître, disons, puisse faire connaître du public, mais aussi qu'on voit et stimuler à la femme de faire sortir les meilleurs d'elle-même. Peut-être elle a des ambitions, mais autre n'en a pas. Mais il faut aussi signaler, bien avant, avec des amis de la maison en Noirit, on a été appuyé par toujours NDI, c'était pour qu'on puisse avoir la liste de Malaïka.
Ça veut dire?
Et la liste de Malaïka, c'est une liste qu'on avait mise à la disposition des groupements politiques, dans le sens où on a identifié les femmes candidates et aspirantes à la politique. Ça va permettre aux partis politiques, il y a des femmes qui ont des ambitions, mais ne savent pas dans quel parti évoluer. Mais là, les connaissances, et là, en termes de profil, un très bon profil, c'est que les partis devaient maintenant recruter toutes ces femmes-là. Parce qu'ils ne voulaient pas que chaque parti produise aussi un gouvernement. Ils devaient déjà identifier qui sont des femmes. C'est comme ça qu'on a mis à la disposition de tous les partis et regroupements politiques dans les centres de connaître, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Kisangani, Goma, il y a des femmes qui sont peut-être à la maison, qui aspirent à faire la politique, mais malheureusement, elles ne savent pas où aller. Et il y a tout sous forme d'un répertoire, aux bases des données qu'on a mis à la disposition des partis politiques. Nous espérons, comme les processus sont là, les cycles devront terminer la première partie qui était présidentielle législative. Nous irons au municipal. Il y a des gens qui sont là, mais qui attendent un appui parce qu'ils ne savent pas où aller. Je pense que dans chaque parti politique, il y a l'école électorale. Il y a aussi l'école de formation autre. Pouvons utiliser cette liste pour améliorer, aussi identifier des gens qui peuvent répondre aux attentes et à la vision du parti, au projet de société pour sa mise en œuvre.
Le mouvement Rien sans la femme a formé plusieurs femmes, nous l'avons dit. 25 d'entre elles ont été encadrées et accompagnées lors des élections du 30 décembre dernier. À l'issue de ces scrutins, 8 ont été élues aux législatives et au niveau provincial. Pour Jeff Mbia, ces résultats sont déjà encourageants.
Nous avons sur 25 au moins 8 qui viennent de passer au niveau provincial et national. Nous sommes gérés en termes d'indicateurs, c'est un indicateur qui est positif pour nous. Et les autres qui n'ont pas. Moi, chez nous, on ne qualifie pas de candidates malheureuses. Ce sont des candidates qui avaient des voix. Malheureusement, ils ont été victimes peut-être d'essais. Mais aussi, il fallait être en ordre utile sur la liste du regroupement politique. Certains n'ont pas bénéficié de la solidarité au sein du regroupement. Parce que quand vous êtes dans une liste, il faut avoir des jokers, des gens qui ont des notoriétés, qui peuvent travailler pour permettre sur la liste que quelqu'un passe. Malheureusement, certains se sont retrouvés sur des listes où les gens venaient d'abord des novices en politique qui n'avaient rien apporté. Bon, conséquences, mais dans la formation, nous avons dit, bon, il faut connaître les conséquences d'un regroupement politique où vous travaillez en termes de solidarité. Et d'autres étaient victimes des pommes de financement qui espéraient avoir auprès de l'autorité morale un financement pour battre campagne haute, n'ont pas pu. Mais nous, à notre niveau, on avait signé un certain contrat avec des chaînes locales pour permettre à ces femmes de passer. Réellement, certaines sont passées, d'autres ont préféré utiliser l'approche porte-à-porte, question de fidéliser leur base. Nous espérons que nous avons trouvé en tout cas des femmes qui sont déterminées, mais c'est une école, on apprend. Et l'échec permet, vont permettre à certaines d'améliorer. Et pour nous, nous sommes fiers pour cet accompagnement. Déjà 8 sur 25, c'est déjà beaucoup.
Voilà, alors sur ces 8 femmes, il y a peut-être, je vais citer un cas que je peux appeler un peu particulier, c'est le territoire de Mitoaba qui a 2 sièges. Oui. Et les 2 sièges ont été tous raflés par les femmes que vous avez accompagnées.
Oui, et nous sommes fiers de connaître bien que Mitoaba, c'est une zone sortie d'un conflit, post-conflit. Et voir la population de Mitoaba faire confiance aux femmes, c'est qu'ils ont compris à travers la femme qu'on peut ramener la paix. Parce que la femme, je ne sais pas dire que je vante la femme, mais quand on donne la femme la responsabilité, on peut espérer avoir la transparence, les dividendes et même la redevabilité. Même vis-à-vis de ses propres enfants, la femme peut rendre compte à son mari. Nous espérons que c'est déjà un signal fort dans l'amélioration, surtout en termes de la promotion de la participation politique.
Radio Okapi. Au Kasaï central, seules 3 femmes ont été élues aux législatives nationales et provinciales sur un cumul des 49 sièges. Parmi elles, Madame Eugénie Tchelakamba, qui promet de défendre valablement les intérêts des Congolais et des centres kassaïens en soutenant des lois utiles à l'Assemblée nationale. Elle nous dit comment elle a accueilli cette nouvelle et invite ses semblables n'ayant pas réussi aux législatives nationales et provinciales à ne pas se décourager et à postuler une fois de plus lors des élections à venir. Elle est jointe au téléphone par Blaise Ndongala.
Je remercie particulièrement mes électeurs et surtout le bon Dieu qui a touché la confiance de chaque électeur de m'avoir accordé sa voix.
Vous avez été la mieux élue sur les 19 sièges que comptait la province du Kasaï central. Quel a été votre secret, madame?
Le secret, j'avais très bien bâti la campagne, ça c'est connu. La population a compris mon discours qui est lié à celui de mon chef. À travers la province, ma circonscription, j'ai montré la vision de notre programme de société qui va de soi pour donner le sourire à notre peuple meurtri. Et les projets, les jalons de la refondation de l'État, rendre la dignité aux Congolais. Tout cela a enchanté la population et puis la population est venue avec l'expression dans les urnes.
Vous serez désormais à l'Assemblée après, si je ne me trompe pas, des tentatives en 2006 et en 2011. Quelles seront vos priorités pour la population du Kasaï central?
D'abord pour défendre valablement le Kasaï au Parlement et défendre les intérêts du peuple congolais en général, l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça un parlementaire, hein? Il n'y a pas mieux à faire que ça. C'est pour rédiger les lois et les faire adopter en faveur de ma province. Bon, ce qui est vrai est que je veux marquer la différence. Je ne trahirai jamais le mandat. Je serai leur défenseur et être proche à l'écoute du peuple, de ma province, de mes électeurs.
Est-ce que vous avez une recommandation à d'autres femmes, vos semblables, qui ont échoué au cours de ces élections?
Il n'y a pas grand-chose à dire. Quand on s'engage en politique, c'est parce qu'on a la vocation. Et quand on a la vocation, on doit un jour réaliser les rêves. C'est-à-dire, on échoue aujourd'hui, mais qu'on ne s'arrête pas là. On continue, on acquiert l'expérience et on voit ce que les autres qui ont gagné comme nous ont fait. Et puis, consulter la population. Un jour, ça va toujours arriver. C'est une partie remise, mais qui n'est pas perdue. Je ne pense pas qu'on doit se fatiguer puisqu'on a échoué une fois ou deux ou trois même. C'est ça la politique. Mais, et entre-temps, on fait d'autres choses aussi. Hein. La politique, c'est pas seulement aller siéger au Parlement. On peut créer son propre Parlement, bien sûr, sans prérogative, à la maison, continuer à écouter les électeurs, parler aux électeurs, échanger. Chaque jour qui passe, on devient plus fort et plus grand.
Que serait selon vous à la base de ces mauvais scores des femmes aux législatives à l'issue de ces élections?
Vous savez, la vie est un combat. Nous combattons tous, les femmes et les hommes. Je ne fais pas la différence entre les hommes et les femmes, en tout cas. Je pense que quand on est politique, on l'est. Il n'y a pas de sexe en politique. Hein. La politique, c'est l'homme, c'est la femme. Je sais qu'il y a des femmes qui ont envie, mais qui peuvent peut-être être découragées, qui n'ont pas de motivation. Mais à ces femmes-là, j'ai dit, écoutez, ne vous fatiguez pas ou ne vous lâchez pas. Je crois que c'est une vocation. Les uns peuvent l'avoir ou les unes peuvent l'avoir et les autres ne l'ont pas. Ce n'est pas pour cela que je m'en vais condamner la femme, puisque la femme est appelée à faire beaucoup de choses, pas seulement la politique. La femme, elle détient aujourd'hui l'économie de notre pays dans les formels.
Que répondez-vous, madame, à ceux qui estiment que les Kasaïens, en général, ne sont pas encore prêts à élire plus les femmes lors des élections?
Je ne dirais pas que c'est vrai, puisque voilà, je suis un exemple. J'étais, comme vous l'avez dit d'ailleurs, la mieux élue. Je ne peux pas aujourd'hui dire que les hommes kasaïens ne sont pas pour les femmes. C'est vrai que je suis la première femme à être élue dans la ville de Kananga comme députée nationale depuis l'indépendance. Je suis très reconnaissante, mais ce n'était pas le premier coup. Hein. J'avais déjà tenté une ou deux fois. Voilà, maintenant, j'étais déjà élue suppléante dans les temps, il y a plusieurs années. Maintenant, je ne me suis pas fatiguée, mais je suis arrivée à convaincre les hommes, les femmes, les enfants. Et voilà, j'arrive. C'est seulement savoir convaincre. Il faut savoir rassurer. Et voilà, les hommes ont massivement voté à ma faveur.
Vous venez de suivre Eugénie Tshielakamba, qui est la première femme élue à la députation nationale pour la ville de Kananga depuis l'indépendance. Elle était interrogée par Blaise Ndongala. Parité et famille. Si à l'issue des présidentielles, législatives et provinciales, on peut se réjouir de compter quelques femmes, ces résultats restent encore faibles pour la représentativité de la femme aux instances de prise des décisions. Quelles sont encore les causes qui expliquent ce faible score? Je vous invite à suivre la présidente provinciale du parti politique Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC, Madame Kona Katakati, ancienne députée provinciale de l'ancienne Assemblée du Lualaba, mais qui n'a pas été élue pour les territoires de Dilolo, est jointe au téléphone depuis Kolwezi par Colin Djuma Moussampo.
Là, j'ai constaté aussi qu'il y avait un faible taux de participation à ces élections causé par les temps morts du 23 au 30 décembre. Un faible taux de participation des femmes au scrutin qui débouche sur une faible représentation aux différentes assemblées législatives. Par exemple, dans mon territoire de Dilolo, sur 56 candidats, il n'y avait que 4 femmes au scrutin. Donc là, le taux est vraiment très faible.
Et combien de femmes ont été élues qui vont représenter les autres femmes à l'organe délibérant?
Jusque-là, dans notre territoire, aucune femme au niveau provincial n'a été élue, sauf au niveau national où nous avons une femme. Et là, nous voulons encourager toutes les femmes à ne pas baisser les bras. Nous devons toujours aller de l'avant, parce que pour avoir comment le pouvoir, nous devons être représentés dans des réunions où il y a des prises de décision. Nous, femmes, même si nous avons échoué pendant les élections, mais dans d'autres organes de prise de décision, nous devons nous y retrouver.
Vous avez été candidate, comme vous venez de le dire vous aussi. L'échec des femmes, c'est dû à quoi?
L'expérience de ces élections est d'abord pédagogique. Sachant aujourd'hui qu'il est possible de changer les cours d'histoire de la vie, lorsque la volonté de faire et de bien faire les choses est là, enfin, beaucoup reste à faire pour améliorer notre système démocratique. Ici, surtout à l'intérieur, il faut noter qu'ayant été déjà candidate depuis 2006, cette fois-ci, il y a eu plus de témoins qui n'ont pas pu participer à toutes les étapes, notamment les dépouillements. Certains témoins ont même manqué des macarons suite au retard, etc. Nous espérons une amélioration de cet aspect pour le futur.
Par rapport à ces élections, quel message avez-vous à lancer aux autres femmes?
À d'autres femmes, en tant que femme, mon message lancé aux autres femmes est à la fois simple et clair. Nous femmes, nous devons nous impliquer dans la vie politique de notre pays. Et la tâche est grande. Nous femmes, nous devons décider de ce qui nous concerne en état présent, pas en état absent. Nous devons être présentes là où sont prises les grandes décisions, notamment dans les assemblées parlementaires, dans les sénats, dans les gouvernements, etc. Bref, dans toutes les institutions de la République.
Radio Okapi. Jeff Mbia, facilitateur du mouvement Rien sans les femmes à Lubumbashi, nous parle aussi des causes qui expliquent cette faible représentativité des femmes au poste de décision.
Oui, parmi les raisons, parce que nous avons fait les constats, ça fait plus de 3 ans, il y avait ce que nous avons assisté à l'intolérance politique, qui fait que la plupart des femmes ne voulaient pas s'engager. Nous espérons qu'avec de nouvelles autorités, nous allons assister dans le cadre du professionnalisme, dans le sens où tout parti politique pourra travailler pour le bien-être de la communauté de ses membres, on pourra arriver à améliorer. En tout cas, l'intolérance politique faisait partie des causes de la rétention de certaines femmes en politique, mais aussi la forme de nos partis politiques qui sont liés à l'individu, aux promoteurs, ça pose aussi problème. Et c'est comme ça que nous avons demandé à toutes les femmes qui sont passées et qui sont dans des partis politiques de former sous forme de lobbying. Lobbying parce qu'en dehors des élections, il y a des postes nominatifs. Il faut savoir avec les élections et le processus de décentralisation, nous avons plus de 17 200 postes à pouvoir par voie démocratique électorale. Mais en dehors de ça, nous avons aussi des postes nominatifs. Et que si toutes les femmes jouent leur rôle au sein de leur parti, pour que ce soit de l'opposition ou de la majorité, ce sont des lobbying pesés, parce que c'est la population nombreuse au sein des partis politiques. Ça fait permettre dans des femmes de dans les gouvernements qui vont arriver même au niveau provincial et national, d'avoir plus de femmes. Parce qu'à ce moment-là, avec des lobbying entre femmes, on peut dire, nous voulons ceci. Quand on promet tel parti, vous avez votre quota, et dans ces quotas, on peut dire, nous voulons telle femme. Si vous refusez, nous, on quitte. On peut constituer ces lobbying et force au sein des partis politiques. On pourra pousser. Déjà avec ces élections, prouver qu'il y avait des femmes qui sont capables et déjà de battre campagne, de convaincre leur auditoire, de convaincre la base. Mais si on donne la gestion, après tout, tout s'apprend. La plupart aussi des femmes se sont lancées 6 mois, une année avant.
Et ça, c'est aussi un frein.
Oui, d'ailleurs, d'après notre constat, la plupart des gens qui sont passés pour ces élections, il y a des gens qui avaient déjà des petites associations qu'ils accompagnaient à la cité, en dehors des moyens, en dehors de leur notoriété. Et ce sont des petites associations d'accompagnement qui les ont portées. Parce que n'oubliez pas que nous avons assisté où du ministre au chef de quartier, tout le monde était candidat. Et chacun devait se battre campagne. Mais si vous n'avez pas de petites bases fidèles, en tout cas, c'était difficile. Même dans l'identification des témoins, la plupart ont utilisé les mêmes bases qu'ils ont l'habitude d'accompagner. C'est un conseil que nous donnons aux candidates et candidats. C'est le moment, si vous voulez réellement passer en 2023, parce que la population est devenue trop exigeante et ça demande beaucoup en dehors. Si vous voulez mettre des moyens, oui, mais là, c'est à vos risques et périls.
Au Kasaï central, vous l'avez suivi, seules 3 femmes ont été élues aux législatives et aux provinciales sur un cumul des 49 sièges. Ces résultats représentent moins de 10% des scores réalisés par les candidates femmes. Qu'est-ce qui serait à la base de cette faible représentativité? On écoute Blaise Ndongala qui a fait aussi réagir la coordonnatrice des LUCOFEM ainsi que l'UDPS.
De nombreux candidats avaient pris le départ de la course aux législatives nationales et provinciales au Kasaï central. À l'arrivée, une seule femme a été élue aux législatives nationales sur les 19 sièges que comptait la province. Aux provinciales, elles sont au nombre de 2 seulement à avoir composté leur billet pour la prochaine assemblée de cette province qui compte 30 sièges. Au Kasaï voisin, une seule femme de la circonscription électorale d'Ilebo a été élue en national sur les 19 sièges alors que les 29 sièges des provinciales sont tous occupés par les hommes. La coordonnatrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM attribue les revers des femmes du Kasaï et Kasaï central aux législatives de décembre dernier aux difficultés financières dont la plupart étaient confrontées. Irène Bombo.
Ces candidates ne s'étaient pas préparées en avance pour affronter la campagne électorale parce que comme vous le savez, quand vous êtes candidate, il faut avoir une réserve financière suffisante, des moyens logistiques pour se déplacer ça et là, battre campagne, rencontrer les électeurs et puis les votes et identitaires ici en République démocratique du Congo et au Kasaï, les électeurs exigeaient un présent, quelque chose, du sel et tout, alors que la femme n'avait presque rien. C'était difficile qu'elle soit élue. Certaines femmes n'étaient même pas visibles sur terrain.
Pour élever le taux de réussite des femmes aux élections à venir, la coordonnatrice de l'ICOFEM au Kasaï central propose que ses semblables soient à côté des leaders politiques forts afin d'influencer leur électorat. Elle est également d'avis que l'accompagnement des hommes est toujours nécessaire. Nombreux sont ceux qui pensent que le faible taux de réussite des femmes est premièrement dû à leur faible représentativité aux dernières élections au Kasaï central. Plusieurs femmes candidates avaient été écartées de la course électorale faute de caution. Une thèse qui soutient le président provincial de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Blandar Chimbombo.
Dans les députations provinciales, nous avions lié maman. Quand nous sommes allés à la CENI, on a exigé de donner l'argent. L'autre-là n'avait pas l'argent. Elle s'est retirée elle-même.
Au Kasaï central, la commission électorale a affirmé avoir réceptionné 68 candidatures féminines contre 673 masculines sur un total de 471.
Parité et famille. Vous êtes bel et bien sur Radio Okapi et vous suivez le magazine Parité et Famille qui revient aujourd'hui sur la participation politique des femmes après les élections. Vous avez suivi également les réactions des femmes élues et des celles qui ne l'ont pas été et aussi les causes qui expliquent les faibles taux des femmes au poste de prise et décision. Malgré ces faibles scores, les femmes continuent de se battre pour améliorer leur représentativité aux institutions. C'est le cas de la présidente du collectif des associations féminines pour les développements et points focaux du mouvement Rien sans les femmes à Goma au Nord Kivu. Joséphine Malimukono plaide auprès des chefs coutumiers du Nord Kivu pour la cooptation d'une femme chef coutumier à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. C'était au cours d'un forum organisé la semaine dernière en collaboration avec la section genre de la MONUSCO à Goma. Une rencontre qui a réuni plus de 20 participants dont 12 chefs coutumiers venus des Massissi, des Niragongo et des Rutshuru. Madame Joséphine Malimukono est au micro de Bernardine Diambou.
Nous avons réuni les chefs coutumiers dans un forum dans le souci de faire un plaidoyer et d'amener les chefs coutumiers à penser aux femmes au moment de cooptation des chefs coutumiers dans les parlements provinciaux. Oui, et sur ce, nous sommes basés sur l'alinéa 3 de l'article 154 qui stipule le principe de rotation des candidats chef coutumier doit s'appliquer à tenir compte des diversités ethniques du territoire ou de la province selon les cas et du genre. Donc nous sommes basés sur cet article pour que quand les chefs coutumiers vont coopter les chefs qui vont aller vers le parlement provincial doivent penser aussi aux femmes.
Madame, est-ce que pour que les chefs coutumiers puissent coopter une femme, et une femme chef coutumier, il faudrait que vous, en tant qu'organisation de la femme, vous puissiez d'abord procéder à un plaidoyer.
Oh oui, on constate qu'il n'y a pas toujours de femmes lors des élections et qu'il y a encore une opportunité si ces femmes sont cooptées par les chefs coutumiers. Mais quand nous avons fait les rondes des chefs coutumiers femmes, on a constaté qu'il y a une seule femme seulement reconnue officiellement, c'est au niveau des Massis.
Et donc vous demandez à ces chefs de faire quoi? Laissez-y passer ou...
Non, on demande aux chefs coutumiers de tenir compte du jar, c'est tout, pendant la cooptation des chefs coutumiers à l'Assemblée provinciale. L'objectif de notre plaidoyer, c'est dans le cadre de cooptation des chefs coutumiers dans l'Assemblée provinciale. Mais à cela, nous avons pris en compte l'alinéa 3 de l'article 154 de la loi électorale. Et cet article qui dit le principe de rotation des candidats de chefs coutumiers doit s'appliquer en tenant compte des diversités ethniques du territoire ou de la province selon les cas et du genre. Et de là, nous avons pensé que si les chefs coutumiers tiennent compte du genre et s'ils tiennent compte des diversités ethniques, il y a aussi possibilité qu'une femme soit cooptée. Nous avons fait les rondes des chefs coutumiers et on a constaté qu'il y a une femme au niveau de Massissi qui est chef, reconnue, intronisée et qui est reconnue même par le ministère public. Donc cette femme aussi peut être cooptée au niveau de l'Assemblée provinciale, au même titre que les hommes.
Et aujourd'hui, vous avez réuni combien de personnes, et notamment combien de chefs coutumiers, et ces chefs coutumiers viennent d'où?
Nous avons réuni 12 chefs coutumiers et 8 personnes membres du mouvement Riesa les femmes. Et ces chefs coutumiers sont venus de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo. Et ils nous ont donné beaucoup d'éléments pour pouvoir aller dans le processus de lobbying pour que cette femme soit aussi cooptée au niveau de l'Assemblée provinciale.
Votre message que vous lancez peut-être auprès de l'opinion?
Le message que nous lançons auprès de l'opinion, surtout aux chefs coutumiers, est de prendre en compte le genre lors des cooptations des chefs coutumiers. C'est ça notre seul message, puisque s'ils tenaient compte de cet article 154 alinéa 3, ils vont tenir compte du genre et de l'ethnie dans les territoires.
Et vous pensez que ça sera facile parce que nous savons que nous avons des coutumes rétrogrades?
Ce n'est pas facile ce travail que nous demandons aux chefs coutumiers, mais avec et tout ce que nous avons dit, avec la loi qui leur demande de tenir compte du genre, il est possible de faire passer notre message.
Et c'est avec Madame Joséphine Malimukono, qui, je le rappelle, est la présidente du collectif des associations féminines pour les développements et point focal du mouvement Rien sans les femmes à Goma, que nous terminons Parité et famille de ce jour consacré à la participation politique des femmes après les élections. Merci à tous ceux qui ont participé à la production de ce magazine. Nous citons Denise Maéo, Blaise Ndongala, Colin Juma et Bernardine Diambo. La mise en onde est signée Jean-Claude Siala. Je suis Thérèse Kankou. Au revoir. Et à la prochaine.